Chapitre 9. Comme il le faisait chaque soir depuis 10 mois, avant de quitter l'étude, Jean-Noël frappa à la porte de la petite pièce où Maître Préfil aimait à se retirer. C'était un homme de 65 ans, de caractère aimable. Madame Mourier lui avait recommandé Jean-Noël. Le notaire avait pris note de cette recommandation et 8 mois plus tard, il avait écrit à la jeune femme, avec cette fierté que donne une promesse tenue contre toute attente, qu'il allait avoir besoin d'un collaborateur et qu'il était désireux de connaître M. Ettlinger. La présentation avait eu lieu. Maître Préfil n'avait pas voulu gâcher la bonne impression qu'il sentait avoir faite en n'oubliant pas ce qui lui avait été demandé. Il avait reçu Madame Mourier et Jean-Noël comme si ceci lui faisait une grâce en lui rendant visite. Désabusé, courtois, il avait laissé entendre qu'il était agréable de se trouver entre gens de bonne compagnie, et lorsque Jean-Noël, impatient de se situer, avait fait allusion à ses capacités et surtout à sa famille, ou plutôt à celle de sa belle-mère, née Villemur de Falais, Maître Préfil, comme s'il n'avait pas entendu ce nom, lui avait dit « Du moment que vous m'êtes recommandé par Madame Mourier, vous avez toute ma confiance. » Ce soir-là, Maître Préfil n'accueillit pas Jean-Noël avec sa bonne humeur habituelle. Il était assis à son bureau, la tête entre les mains. Une lampe à pétrole brûlait à côté de lui, car il avait la vue sensible et il ne pouvait supporter la lumière électrique. Jean-Noël toussa à plusieurs reprises. Le notaire se redressa enfin. « Vous ne vous sentez pas très bien ?» demanda Jean-Noël avec cette gravité qu'il savait prendre quand, arrivé en riant, il s'apercevait brusquement qu'il était le seul à rire. « Mon fils a été blessé hier soir. Je ne sais pas comment cela s'est produit. Au cours d'un assaut, le fleuret de son adversaire lui est entré dans l'aisselle. Ce ne serait rien si on ne craignait que le sommet du poumon ne fût atteint. Est-on certain que le poumon a été atteint ?» s'enquit Jean-Noël sur un tel ton qu'on eût pu croire qu'il avait été jadis blessé de la même manière. « Pour le moment, personne ne sait rien. Il faut attendre la radiographie. « Voulez-vous que je demande à M. Villemur le nom de son médecin ? » dit-il en mouillant les L de Villemur, comme il savait que c'était l'usage dans la haute société protestante. « Je vous remercie. Nous sommes habitués à notre vieux docteur. Il y aura bientôt 20 ans qu'il nous soigne tous. Il est devenu notre ami. » « Le médecin de M. Villemur est pourtant une sommité, » dit Jean-Noël sans regretter une seconde que Maître Préfil négligeât un tel concours, l'essentiel n'étant pas pour lui qu'on fît appel à ce médecin, dont il n'avait d'ailleurs jamais entendu parler, mais qu'on reconnut que celui-ci était, comme il disait, une sommité. Un vent froid, descendant de la place, soufflait dans cette rue de Clichy, au bas de laquelle se trouvait l'étude de Maître Préfil. Chaque soir, Jean-Noël regagnait à pied le petit appartement de la rue Laugier où Madame Mourier habitait. Le temps que durait ce trajet était pour lui le plus agréable de la journée. Jean-Noël se tournait vers sa jeunesse, ou plutôt vers les années de sa vie qu'il appelait heureuses, celles qu'il avait passées à Nice. Il se souvenait avec attendrissement de la route bordée d'hôtels transformés en hôpitaux qu'il avait suivie pour se rendre au lycée, de l'appartement de l'avenue Félix-Faure. Son père vivait alors. Jean-Noël le revoyait avec sa jaquette, sa cravate blanche, son chapeau de feutre noir à large bord qu'il portait sans le bosseler. Il revoyait aussi le cabinet de travail, pièce nue, claire, aux meubles de rotin, encombré de piles de prospectus que Jean-Melchior faisait imprimer, car il avait toujours eu la manie de lancer quelque chose, ou cet atelier de la vieille ville où sa belle-mère passait ses après-midi. Souvent, il avait pris le thé avec elle. Il lui fallait traverser un jardin, monter un petit escalier de bois presque vertical pour pénétrer dans ce sanctuaire. Les murs en étaient couverts de peinture. Une odeur d'alcool à brûler, de mimosa, d'essence de térébenthine embaumait l'air. En arrivant rue Laugier, Jean-Noël crut reconnaître son frère dans un jeune homme qui stationnait devant la petite horlogerie faisant face à la maison de Madame Mourier. C'était en effet Émile, cet enfant dont Madame Ettlinger n'avait pas voulu assumer l'éducation parce qu'il aurait été conçu s'il avait été vraiment le fils de Jean-Melchior, alors qu'elle connaissait déjà celui-ci. Tu m'attendais ? Demanda Jean-Noël en feignant d'être encore plus étonné qu'il ne l'était. Non, j'attends notre mère. Elle est montée. En disant ces mots, il leva la tête vers l'appartement. Et toi, pourquoi n'es-tu pas monté ? Émile ne répondit pas. C'était à présent un jeune homme de 20 ans, aussi grand que Jean-Noël, mais tellement voûté qu'il paraissait plus petit. Il était proprement vêtu. Son pardessus, pourtant, était si usé, si vieux, qu'au poignet, on apercevait de la doublure effilochée qui sortait des manches. Sa chemise avait sans doute été faite par sa mère. Elle se boutonnait sur le cou. Le col n'y était pas fixé, si bien qu'entre celui-ci et la chemise, une bande de chair apparaissait. « Monte avec moi, » dit Jean-Noël gentiment, bien qu'il eût compris que c'était parce que sa mère voulait lui demander de l'argent que son frère restait en bas. « Ce n'est pas la peine, elle va descendre, » répondit Émile sans retirer les mains de ses poches et en regardant son frère sournoisement. Il n'aimait pas Jean-Noël, il ne lui pardonnait pas d'avoir été favorisé, cependant qu'avec sa mère, il avait vécu et vivait encore misérablement. Car c'était une vie triste que tous deux menaient dans cette chambre de la rue Mouton-du-Vernay, où ils s'étaient installés peu après la mort de M. Ettlinger, et d'où, faute d'argent, ils ne pouvaient sortir. Si Jean-Noël l'avait vraiment voulu, il y avait longtemps qu'il aurait pu tirer sa mère de ce dénuement, du moins Émile en était convaincu. « Tu n'as pas besoin de t'occuper de moi, rentre chez toi, » fit Émile sur le ton qu'il eut pris pour dire « Amuse-toi bien ». Jean-Noël monta lentement les 4 étages qui le séparaient de l'appartement de Madame Mourier. « Ta mère est là, » dit celle-ci en ouvrant la porte, comme s'il s'agissait d'un ennemi commun. « Tu l'as fait entrer au salon ?»« Oui, elle t'attend. »« Est-ce que tu sais ce qu'elle veut ?» demanda Jean-Noël à voix basse, comme s'il croyait au dévouement de Madame Mourier. « De l'argent, naturellement. » Il entra dans le salon en se frottant les mains, comme si tout allait particulièrement bien. C'était une pièce pleine de bibelots, dont la moitié était occupée par un piano à queue. Sa mère, qui venait d'atteindre sa 60e année, était assise sur le bord d'un fauteuil, comme les vieilles dames dans les salles d'attente. Elle était vêtue d'un tailleur noir qu'elle s'était fait elle-même et dont la veste ressemblait à une vareuse de soldat. À la vue de son fils, elle se leva en s'aidant d'un bras du fauteuil et s'avança vers lui. « Ne te lève pas, je t'en prie. »« Mais si, mais si !» Elle regarda Jean-Noël de ses petits yeux vifs et moqueurs. Madame Mourier s'était approchée. « Restez donc assise, madame !» Madame Mercier leva les mains comme si elle ne savait plus ce qu'elle devait faire, puis elle se rassit. Il était difficile de penser que cette personne pût ne pas être inoffensive. Pourtant, sa vie entière s'était écoulée dans des démarches de ce genre. « Eh bien !» dit Jean-Noël en allumant une cigarette. Elle sourit comme si son fils, au lieu de l'encourager à parler, venait d'avoir un trait d'esprit. « Tu as sans doute quelque chose à me demander ?»« Oui, » dit-elle, avec une expression d'étonnement incompréhensible. « J'ai pensé qu'au lieu de donner autant d'argent à ta femme, tu pourrais me confier ta fille. Je t'assure qu'elle serait mieux soignée et que cela te reviendrait moins cher. »« C'est impossible. Pourquoi ?» Elle regardait tour à tour son fils et Madame Mourier. Elle avait beau le faire comme si elle ne voyait rien, on sentait qu'elle ne perdait pas un geste de ses interlocuteurs. « Je te dis que c'est impossible, » répéta Jean-Noël. Quand, avec le temps, Marguerite avait compris qu'elle était définitivement abandonnée, son amour pour sa fille avait pris les proportions d'une passion. L'enfant se coupait elle que sa mère, vivante image de la douleur, sortait comme une folle, arrêtait le premier passant pour lui demander secours. À ses sentiments maternels, dont elle était un peu trop consciente et qu'elle affichait dans le but de montrer à son mari qu'il ne comptait plus, que sa place était prise, elle mêlait certaines méthodes pédagogiques. Elle prétendait qu'il fallait laisser les enfants libres d'agir à leur guise, se développer d'eux-mêmes, qu'il fallait éveiller leur instinct avant toute chose. Elle voulait en outre qu'ils crussent à une foule de légendes, et il y avait quelques mois, lorsque Jean-Noël lui avait demandé devant la fillette quel jouet il pourrait bien lui acheter pour Noël, Marguerite avait jeté sur lui un tel regard qu'il s'était tu immédiatement. car s'il n'était plus question d'amour entre le mari et la femme, celle-ci n'en conservait pas moins, ainsi qu'un souvenir qu'on ne vous réclamera pas à cause de son peu de valeur, l'habitude qu'elle avait eue de se faire obéir par le regard. Elle élevait donc sa fille dans le respect de son père. Il faisait un peu partie, du moins le pensait-elle inconsciemment, de ce merveilleux dont elle se plaisait à entourer son existence terne. Elle espérait qu'un jour, car l'avenir jouait un grand rôle dans sa vie, et elle agissait toujours en prévision des reproches que sa fille pourrait lui adresser plus tard, Jean-Noël lui reviendrait et qu'alors il serait fier de voir que son enfant avait été élevé aussi bien sans ses conseils qu'elle l'eût été avec. Mais en attendant, elle ne supportait pas la moindre observation. Convaincue de l'excellence de cette éducation, elle voulait s'en attribuer tout le mérite, espérant par ce moyen montrer à Jean-Noël qu'elle aussi ne ressemblait pas à tout le monde. Comment Madame Mercier pouvait-elle donc croire que cette même femme, qu'elle connaissait cependant, se séparerait de sa fille et accepterait qu'elle fût confiée justement à une personne qu'elle n'aimait pas ? Jean-Noël sentit que ce n'était qu'un moyen de lui demander de l'argent et que sa mère ne se faisait aucune illusion sur l'accueil qui serait fait à sa demande. « Tu sais bien, dit-il, que Marguerite ne consentira jamais à te confier Annie. » C'était le prénom de sa belle-mère que Jean-Noël avait donné à sa fille. « Cela dépend, si tu lui fais comprendre. » À ce moment, Madame Mourier intervint. Pourtant, ce serait beaucoup mieux pour ta fille, dit-elle, comme si, femme avant tout, elle songeait d'abord à l'intérêt des enfants. Jean-Noël la regarda avec cet air qu'on prend quand un intime, par sa maladresse, soutient un adversaire. Enfin, fais ce que tu veux, continua-t-elle. Tu sais très bien que je ne me mêle pas de ces histoires. Elle prononça ces mots en souriant. Elle avait la manie, non pas de rire des peines d'autrui, mais de laisser entendre, chaque fois qu'on était accablé par un souci, que ce souci n'était que la conséquence d'un défaut qu'elle avait non seulement signalé, mais contre lequel elle avait lutté. « Que vais-je devenir ? » s'écria Madame Mercier. Ses lèvres se serrèrent comme si elle allait pleurer. C'était sur cette garde qu'elle avait compté, garde qui, elle le savait pourtant, ne pouvait lui être confiée, afin que, lorsque son fils la lui refuserait, elle pût se lamenter et demander autre chose. Avec discrétion, Laure s'était retirée. « Tu sais bien, Jean-Noël, qu'Émile ne peut pas travailler. Il n'en a pas la santé. » Madame Mercier s'aperçut alors que l'ami de son fils n'était plus là. Alors ses lamentations cessèrent. « Elle a de l'argent, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle en changeant de ton, et comme si le fait d'être la mère de Jean-Noël lui permettait une telle indiscrétion. Il ne répondit pas. Cette scène le gênait. Il faillit appeler Madame Mourier pour la faire cesser. Froissée comme le serait une jeune femme qui s'offre et qu'on refuse, Madame Mercier devint dure. « Tu sais que j'ai appris certaines choses, » dit-elle menaçante. Croyant que ces choses concernaient Laure, Jean-Noël, à qui il répugnait d'entendre des calomnies sur Madame Mourier dans l'appartement même de celle-ci, dit à sa mère qu'il allait l'accompagner et que dehors, tous deux seraient plus tranquilles pour parler. Ils quittèrent le salon. De sa chambre, Madame Mourier les entendit partir, mais elle ne bougea pas. Dans l'escalier, Jean-Noël éprouva un soulagement qui fut de courte durée. « Il paraît, dit Madame Mercier, que tu as fait revenir les restes de ton père, que cela t'a coûté plusieurs billets de 1 000 francs. » Jean-Noël pâlit. « Ce n'est pas exact. Madame Mourier vient de me l'apprendre. Pour cela, elle te donne de l'argent, mais pour moi, elle ne t'en donne pas. » « C'est-à-dire que c'est mon intention, parfaitement, mais je ne l'ai pas encore fait, et si je le fais un jour, ce sera avec de l'argent que j'aurai gagné. » « Et tu veux jeter de l'argent comme cela, par la fenêtre, pendant que nous n'avons rien, Émile et moi ?» Il y avait 10 ans que M. Ettlinger était mort. Ce n'avait été pourtant qu'à la suite d'une visite qu'il avait faite à sa belle-mère, à la rentrée de l'année précédente, que Jean-Noël avait songé à faire enterrer son père à Paris. Ce jour-là, en lui parlant de ses vacances, Annie lui avait raconté qu'elle avait passé une journée à Davos pour fleurir la tombe de Jean Melchior. Au ton naturel avec lequel Annie avait parlé de ce pèlerinage, Jean-Noël avait senti que pas une seconde, elle n'avait pensé qu'il eût pu, lui aussi, avoir envie d'aller à Davos. Quelques jours plus tard, il avait écrit au cimetière, puis il avait fait deux ou trois démarches, mais les frais de cette translation l'avaient arrêté. Néanmoins, il avait parlé de son projet à Madame Mourier comme d'une chose décidée, voulant lui montrer ainsi que dès qu'il s'agissait de sa famille, il n'avait pas à rendre de compte et que l'argent ne signifiait alors plus rien. Depuis, il distrayait une certaine somme sur ses appointements et comme un homme qui vit pour une idée, il se privait ostensiblement de plaisir. Laure n'avait pas osé contrecarrer un projet qui paraissait prendre sa source dans un sentiment aussi noble. Cependant, ce que ce projet avait de théâtral ne lui avait pas échappé et elle en avait parlé à certaines de ses amies, bien que Jean-Noël lui eût demandé le secret. Quand sa mère et son frère se décidèrent enfin à partir sur la promesse qu'il allait leur envoyer de l'argent, Jean-Noël remonta en toute hâte. Il était en colère. Il ne pouvait supporter qu'on fît des commérages dans son dos. Est-ce pour m'être désagréable que tu as répété à ma mère ce que je t'avais prié de garder pour toi ? Au contraire, c'est pour t'être agréable. Tu n'as pas à cacher tes sentiments. On a déjà trop tendance à te mépriser. Et ce n'est pas étonnant si tout ce qu'il y a de beau en toi, tu le dissimules.